Et à 7h, on débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. En sommet à Erevan, la francophonie s'apprête à introniser une africaine, la diplomate rwandaise Louise Mushikiwabo, soutenue par la France et désormais par le Canada et le Québec, qui avaient pourtant leur candidate. Enjeu diplomatique décrypté dans un instant, polémique aussi, alors que le Rwanda a remplacé en 2008 le français par l'anglais, comme langue obligatoire à l'école. Reporters sans frontières déplore aussi les manquements démocratiques au Rwanda.
Et puis c'est le 9e jour sans remaniement depuis la crise provoquée par le départ de Gérard Collomb. Il ne se passera rien avant le retour sur le sol français du président actuellement en Arménie. Au sommet de la francophonie, l'opposition ne cesse d'ironiser sur la situation.
À la une encore, la sécheresse dans 62 départements en France ce matin. L'ouragan Michael qui ravage la Floride, au moins un mort. Les États-Unis où des stars s'engagent par ailleurs pour la campagne, les élections de novembre prochain, les élections de mi-mandat, vous l'entendrez. Et pour la question du jour, Guillaume,
dans la question du jour sera consacrée à l'immigration. La ruée vers l'Europe est-elle un mythe? Et nous serons en compagnie de François Héran, professeur au Collège de France.
C'est un espace qui compte 274 millions de locuteurs dans le monde. L'Organisation internationale de la francophonie s'apprête à nommer à sa tête aujourd'hui une diplomate rwandaise, Louise Mushikiwabo. Elle doit être élue aujourd'hui en clôture du sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie, consacrant ainsi la victoire de l'Afrique, mais aussi celle d'Emmanuel Macron, héros d'une vision plurilinguiste de la défense du français. Louise Mushikiwabo, soutenue par la France, donc, elle a vu le Canada et le Québec se rallier aussi à sa candidature, le Canada et le Québec qui ont retiré leur soutien à la secrétaire générale sortante, la Canadienne d'origine haïtienne, Michaëlle Jean. Et c'est en coulisses que tout s'est joué, Élise Delève.
Il y a deux poids lourds économiques dans le monde francophone, la France et le Canada. Ils représentent à eux deux un tiers du budget de l'Organisation internationale de la francophonie. La France voit l'OIF comme un outil d'influence de ses intérêts en Afrique. L'objectif d'Emmanuel Macron était donc d'écarter le Canada, rival naturel et soutien de Michaëlle Jean, l'adversaire de Louise Mushikiwabo. Paris a milité en coulisses jusqu'à la veille du sommet pour obtenir un consensus autour de sa candidate. Mais pourquoi soutenir la rwandaise? Pour des intérêts bilatéraux, même si l'Élysée s'en défend. Choisir cette candidate, c'est poursuivre le rapprochement avec Kigali, initié par le président français l'année dernière. Les relations entre les deux pays sont tendues, voire rugueuses. Il n'y a pas d'ambassadeur français à Kigali depuis 2015. Ce positionnement français n'a pas été bien compris au sein de l'OIF. La francophonie s'appuie sur deux piliers, le respect des valeurs démocratiques et des droits humains, ainsi que la promotion de la langue française. Le Rwanda, dirigé par une élite anglophone, est peu réputé pour ses performances démocratiques, ne coche aucune de ces cases.
Et c'est pour ces raisons que quatre anciens ministres de la coopération ont d'ailleurs affirmé le mois dernier que Louise Mushikiwabo n'avait pas sa place à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. De son côté, Reporters sans frontières déplore que le Rwanda pratique censure, menaces, arrestations, violences, assassinats contre les journalistes qui osent dénoncer l'autoritarisme de ses dirigeants. Mais pour Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État français en charge de la francophonie, le soutien de Paris à la diplomate rwandaise Louise Mushikiwabo s'explique naturellement, le centre de gravité de la francophonie est aujourd'hui en Afrique.
Avoir une femme africaine à la tête de la francophonie, ça a beaucoup de sens. Demain, en 2050, 85% des francophones seront sur le continent africain. Et donc, la France a souhaité soutenir cette candidature pour que les pays du Sud puissent à nouveau retrouver le leadership de l'organisation après Boutros Ghali, l'Égyptien, après Abdou Diouf, le Sénégalais, deux personnalités qui ont laissé, je peux vous dire, des empreintes fortes au niveau de l'action de la francophonie. Et je n'ai aucun doute sur le fait que Louise Mushikiwabo, dès lors que les chefs d'État et de gouvernement lui feront confiance, pourra également inaugurer un mandat qui sera marquant. Parce que vous savez, quand on est nommé secrétaire général de la francophonie, eh bien, naturellement, on échappe quelque part à son État. Et on est là pour incarner la famille francophone dans sa diversité, dans toutes ses valeurs. On est là pour mettre en avant et mettre en application la charte de la francophonie, pour mettre en application un certain nombre de déclarations et de principes qui, naturellement, eh bien, ont trait à la démocratie, ont trait à des chantiers aussi importants que la lutte contre le dérèglement climatique, que l'éducation et ou que l'égalité homme-femme. Et d'ailleurs, sur ce dernier point, le Rwanda, je peux vous dire, est un un État qui est très en avance et qui n'a pas de leçons à recevoir de personne.
Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État français en charge de la francophonie, il répondait à Stanislas Vazak. Jean-Baptiste Lemoine, qui espère bien faire partie du prochain gouvernement, alors que le remaniement n'aura pas lieu avant vendredi soir, au plus tôt au retour d'Emmanuel Macron du sommet de la francophonie en Arménie. Les affaires de l'État sont gérées, l'action continue, ne cesse de répéter les conseillers de l'Élysée ou de Matignon, mais l'opposition, elle, estime que ce remaniement qui tarde à venir est le symptôme d'un macronisme qui n'attire plus Olivia Chandiou.
Le magnétisme d'Emmanuel Macron ne fait plus effet, c'est le constat que dresse Annie Genevard. Pour la députée Les Républicains du Doubs, une chose est claire, le président n'arrive plus à recruter.
Le gouvernement est difficile à construire, et s'il est difficile à construire, c'est sans doute parce que la ressource humaine y est rare. Et on voit aussi que le vivier politique de La République En Marche est mince. L'attractivité s'est émoussée sous l'effet, de la réalité, de l'engagement politique. Ça ne s'improvise pas, vous savez. Si tant de parlementaires ont été préalablement élus locaux, départementaux, régionaux, ils se sont construits une culture politique, mais je dirais même une philosophie politique. Tout ça fait cruellement défaut à bon nombre d'élus.
Autre problème pour Emmanuel Macron, les refus auxquels il a dû faire face. À l'image de Mathieu Klein, le président PS du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui a décliné un poste de ministre. Pas étonnant pour Olivier Falorni, député du Parti radical de gauche.
Je pense que Emmanuel Macron est encore un aimant, mais un aimant répulsif. Vous savez, il y a deux forces possibles par rapport à un aimant. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de personnalités politiques qui ont plutôt tendance à reculer. Et je peux le comprendre, parce que la question à se poser quand on est un responsable au sens noble du terme politique, c'est de savoir ce qu'on va y faire. Est-ce qu'on aura les mains libres ? Et aujourd'hui, ce que je trouve grave, finalement, c'est que ça ne semble pas grave pour le président de la République, puisque tous décident à l'Élysée.
Le principal intéressé, Emmanuel Macron, assume son rôle de maître des horloges. Il a déclaré hier que les ministres n'étaient pas des objets que l'on déplaçait en quelques heures sur des étagères.
Et le temps parlementaire, lui, ne s'arrête pas. Les députés ont voté hier en commission des finances la suppression d'un avantage fiscal pour les biocarburants à base d'huile de palme. L'huile de palme dont le développement est une cause majeure de déforestation et de dégradation des écosystèmes dans les pays du Sud.
7h07 sur France Culture, la suite des matins. Avec le journal de Catherine Dutu, 62 départements sont concernés ce matin par des restrictions d'eau à cause de la sécheresse.
De la Vendée au Doubs, en passant par la Creuse, la Saône-et-Loire ou encore certaines zones des Hautes-Pyrénées, la France est à sec et de fortes pluies récemment ne changent rien à la donne. La sécheresse, l'un des signes du réchauffement climatique, pour agir enfin pour la planète, des ONG et des youtubeurs s'associent pour promouvoir les actions au niveau individuel. Le site ilestencoretemps.fr liste tous les gestes quotidiens, les initiatives sur le climat, les pétitions à signer, les manifestations à soutenir, comme la prochaine marche pour le climat, ce samedi 13 octobre. De petites batailles à gagner ensemble, estime Vincent Verza, l'un de ces youtubeurs associés au site Il est encore temps, site où la vidéo a été vue plus de 150 000 fois.
Il est encore temps.
Dans cette vidéo, on va pas vous répéter que le réchauffement climatique, c'est la merde. Il y a des ours polaires qui crèvent sur la banquise qui fond.
Bon, ça c'est bon, ça fait 10 ans qu'on le voit, on commence à avoir compris.
Le message clé qu'on essaie de passer, c'est que cet enjeu climatique qui nous dépasse totalement, en fait, c'est aussi un ensemble de petites batailles qu'il faut gagner dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et que tout ce qu'on apprend à faire ensemble sera utile à l'avenir. Donc nous, on a sous-divisé cet enjeu climatique et l'enjeu de la biodiversité en un ensemble de campagnes que les gens peuvent retrouver sur le site ilestencoretemps.fr et aussi un ensemble de gestes, d'éco-gestes, de trucs qu'eux-mêmes peuvent faire à leur niveau individuel qui peut avoir un vrai impact aussi. On pense au boycott, on pense à rejoindre une AMAP, c'est une agriculture qui est vraiment locale et qui est très souvent bio. Et ça, ça change le monde en fait.
Parce que si j'ai pas le pouvoir de stopper la déforestation d'un claquement de doigts, je sais qu'il est encore temps d'empêcher le projet Montagne d'Or par exemple. Une mine d'or à ciel ouvert en Guyane qui va ouvrir la voie à un nouveau massacre de la forêt amazonienne.
80 000 personnes maintenant qui se sont inscrites sur le site, c'est un changement d'échelle et chacune de ces initiatives qui sont mises en avant sur le site sont en train de changer d'échelle. Est-ce que je peux adresser un petit message à toutes les personnes qui pensent qu'il est trop tard ?
Oui.
C'est vrai que quand on apprend vraiment, quand on se renseigne sur le climat, on se dit mais c'est foutu. Tout ce qu'on fait maintenant, tout le faire ensemble qu'on développe maintenant, on va en avoir besoin tout le temps. On va en avoir besoin lorsque la société s'effondre, on va en avoir besoin après. Et les personnes qui organisent les marches maintenant, vous pouvez être sûr que ce seront les premiers à construire le monde de demain.
Vincent Verza, youtubeur interrogé par Véronique Rebérotte. Avec le réchauffement de la planète, explosion des pertes économiques liées aux catastrophes climatiques au cours des 20 dernières années, ces pertes ont été 2,5 fois plus élevées que durant la période 1978-1997, indique l'ONU. Bilan très lourd également sur le plan humain, au moins 3 personnes sont mortes dans des séismes qui ont frappé l'Indonésie puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée voisine hier en l'espace de 2 heures. Séismes de magnitude de 6 et de 7 respectivement. Et puis 15 jours après le tremblement de terre qui avait été suivi par un tsunami en Indonésie, l'agence de gestion des catastrophes va mettre fin aux recherches aujourd'hui. Plus de 2000 victimes déjà recensées. Les autorités craignent que ce bilan ne s'élève à 5000 morts. Avec des vents d'une violence inouïe, l'ouragan Michael a frappé de plein fouet le nord-ouest de la Floride hier, faisant au moins un mort. L'ouragan poursuit sa course dévastatrice en Géorgie voisine. Et toujours aux États-Unis, un déjeuner inhabituel aujourd'hui à la Maison-Blanche. Le président Donald Trump reçoit le rappeur Kanye West, l'un des seuls soutiens de poids du président dans le monde du spectacle. À moins d'un mois des élections de mi-mandat, les démocrates, eux, ont la faveur de nombreuses stars. Rihanna, John Legend, Tom Hanks, mais surtout Taylor Swift, une star passée de la country à la pop, adulée par des millions d'Américains. Elle n'avait encore jamais pris position, Loïc Loury.
Son audience dépasse de loin celle de la plupart des politiciens. Taylor Swift, pour la première fois, appelle à voter démocrate dans son état du Tennessee, la patrie de la musique country. La chanteuse s'est adressée à ses 115 millions d'abonnés sur Instagram avant d'en remettre une couche lors des American Music Awards.
Cette récompense, comme toutes celles décernées ce soir, les Américains ont voté pour ça. Et vous savez ce qui est aussi voté par les Américains ? Les élections de mi-mandat, le 6 novembre. Allez voter, je vous aime.
Toujours très informé de ce que le showbiz pense de lui, Donald Trump a rapidement répondu.
Disons que j'aime désormais la musique de Taylor 25% moins qu'avant, d'accord ?
Avant d'adresser des louanges à Kanye West, relais d'envergure pour le président, voilà ce que disait l'intéressé il y a quelques jours à la télévision.
Souvent quand je parle avec un blanc, il me dit « Comment tu peux aimer Trump ? Il est raciste. » Eh bien, si le racisme me posait problème, j'aurais quitté l'Amérique depuis longtemps.
Une popstar blanche du Tennessee soutient des démocrates, un rappeur noir derrière Donald Trump. Les médias s'amusent de cette opposition peu banale. Reste toutefois à en connaître les effets. L'annonce de Taylor Swift a entraîné un boom d'inscriptions sur les listes électorales, mais certains fans crient aussi leur déception. Avoir des célébrités à ses côtés n'avait pas franchement fait les affaires, dit Hillary Clinton.
Et est-ce un simple hasard de calendrier ou bien un signe des temps ? Depuis l'appel de la chanteuse Taylor Swift à s'inscrire sur les listes électorales et à voter démocrate, plus d'un électeur sur 1000 s'est enregistré pour voter le 6 novembre prochain. Le temps de ce jeudi 11 octobre, marqué par une vigilance orange pour des orages et des risques d'inondations dans les Alpes-Maritimes, en Haute-Corse, Corse du Sud et dans le Var, où une personne est portée disparue depuis hier soir. Sa voiture a été emportée vers la mer par la montée d'une rivière à Sainte-Maxime. Sur le reste du pays, le temps sera partagé entre orages et éclaircies. Les températures sont bien douces pour la saison, comprises au meilleur de la journée, entre 18 et 23 degrés dans le nord-ouest du pays, comptez de 22 à 27 partout ailleurs.